Je suis très honoré, très heureux de recevoir Frédéric Chave, qui est secrétaire générale adjointe au Conseil de la famille, de l'enfance, de l'âge, plus particulièrement attentive aux questions liées à l'enfance et l'adolescence, et d'accueillir également Aline Azan, présidente de l'UNICEF France, qui nous fait l'amitié de nous rejoindre. Alors, il se trouve qu'au titre de la ville, grâce à l'accord et sous l'impulsion d'André Santini et du président de l'association Clavim, j'ai eu la chance de pouvoir participer à l'initiative démarrage de Laurence Rossignol, ministre à l'époque de la famille, qui avait désigné un certain nombre de membres au Conseil. J'ai eu la chance de pouvoir être nommé en qualité de personne qualifiée. Donc, je suis ces travaux avec beaucoup de fidélité et d'attention. Et j'ai eu la chance aussi, grâce à Aline Azan, de rejoindre il y a quelques mois l'UNICEF. Et cette association à l'UNICEF se fait essentiellement comme une reconnaissance du travail qui a été effectué ici et pour lequel chacun et chacune contribue depuis de nombreuses années. Donc, j'y suis extrêmement sensible. Frédéric, vous venez nous parler d'un rapport, peut-être dire quelques mots du HCFEA, qui est une institution quelquefois pas complètement connue. Et puis, je vous laisse lisser pour, d'une certaine manière, après présenter ce rapport qui était extrêmement intéressant. Merci.
Merci, merci beaucoup pour cette occasion de venir présenter ce rapport et puis d'échanger aussi sur ces enjeux et sur les ouvertures et les propositions qui permettraient d'améliorer encore une ville à hauteur d'enfant qui suppose aussi de lui faire une place dans les espaces publics et de maintenir ce contact à la nature et au dépaysement qui sont associés aussi à l'expérience propre de l'enfant que la ville doit également prendre en compte. Effectivement, peut-être avant de commencer, vous dire un mot du Conseil de l'enfance du HCFEA, du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, qui est une instance qui a été créée en 2015, qui est rattachée au service du Premier ministre. Et donc, de cette façon, elle est interministérielle et qui a pour mission d'éclairer le débat public et la décision publique à travers des rapports, des états des lieux, des bilans les plus robustes possibles et pour donner lieu à des propositions d'amélioration des politiques publiques sur les sujets qui concernent chacun de nos trois conseils et donc pour ce qui nous concerne, sur les sujets qui concernent l'enfance et l'adolescence. Donc ce conseil, il est composé de 68 membres. En tout, le HCFA, c'est 230 membres, mais le Conseil de l'enfance, c'est 68 membres, parmi lesquels donc l'ensemble des représentants des acteurs de l'enfance, les élus, les administrations centrales et l'État, les caisses de sécurité sociale, les grandes associations autour de l'enfance, les professionnels, mais aussi un collège de personnalités qualifiées, dont effectivement, Bruno Jarry, vous faites partie. Et merci encore de votre participation et de votre invitation. Et puis, c'est la particularité du Conseil de l'enfance, parce qu'il a été vraiment pionnier, l'association au Conseil de l'enfance, d'un collège de 12 enfants et adolescents qui siègent une fois sur deux. On se réunit à peu près une fois par mois et le collège des enfants est présent pratiquement une fois sur deux. Et il instruit les dossiers comme les autres membres. Il formule des recommandations. Elles sont discutées et, le cas échéant, elles sont publiées dans les rapports. Voilà. Alors, ce rapport, comme les autres, il est donc fondé sur toute une partie d'état des lieux basée sur une étude globale de la littérature sur le sujet, d'un certain nombre de rapports qui ont été publiés sur les différents volets du sujet dont je vais vous parler tout de suite, d'une série d'auditions aussi avec des personnalités expertes sur les différents domaines sur lesquels porte le rapport. Et puis, c'est sur ce socle le plus robuste possible des informations existantes qu'on peut discuter en séance, à huis clos, avec les membres, d'une série de recommandations, de propositions d'amélioration des politiques publiques. Voilà. Juste vous dire encore que, donc, vous le savez, mais c'est chacun des trois conseils a son président et un secrétariat général associé. Donc, c'est Sylviane Giampino, qui est la présidente du Conseil de l'enfance, psychologue, psychanalyste, qui a beaucoup travaillé notamment sur le développement et les besoins des jeunes enfants et sur la qualité des modes d'accueil je ne vous apprends rien. Et puis, voilà, moi qui suis donc sociologue de formation et secrétaire générale du Conseil de l'enfance, secrétaire générale adjointe du HCFE. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet de ce rapport, voilà, ce rapport, il est le fruit, il a été instruit longuement et de façon très approfondie. Il est le fruit de 14 mois de travail avec les membres et au sein du secrétariat général et avec l'audition de nombreuses personnes expertes, ce qui a permis de formuler 11 recommandations que je vous présenterai rapidement tout à l'heure. Et il est né d'un constat qui est qu'effectivement les enfants et les adolescents ne sortent pas assez. C'est un constat qui pointe une génération d'enfants d'intérieur qui soulève 3 à 4 niveaux d'enjeux, à la fois des enjeux de santé et de santé mentale, car on le sait, hein, sortir, c'est bon pour les enfants. Marcher, courir, côtoyer la nature, être à l'extérieur, mais dans des conditions qui le permettent, des conditions sécurisées, qui donnent envie, pratiquer des activités physiques, rencontrer les autres, l'art, la culture, à l'extérieur de la maison et de l'école. C'est ce qui permet aussi de grandir, d'apprendre et de prévenir un certain nombre d'effets dus à la sédentarité, à l'isolement, et aussi de pouvoir sortir d'environnements qui seraient clos sur l'entre-soi et entre les murs. Des enjeux éducatifs, donc, parce que ces temps passés hors de la maison et hors de l'école, ce sont des temps éducatifs. C'est quelque chose qu'on avait montré dans un rapport très important pour le Conseil de l'enfance, rapport inaugural paru en 2019, qui s'appelait « Les temps et lieux tiers des enfants et des adolescents hors du domicile et hors de l'école », et qui montrait qu'un quart du temps des enfants est passé hors de la maison et hors de l'école, et que c'est un temps que les politiques publiques doivent penser pour aider l'accompagnement éducatif qui peut se passer, qui doit se passer dans ces temps-là pour les enfants et les adolescents. Un temps d'expérimentation, un temps d'apprentissage, et aussi des apprentissages du quartier, de la ville, de la vie en société, de proximité, et puis de plus en plus élargis au contact des autres, et puis apprentissage aussi nécessaire de la nature et des écosystèmes dans lesquels l'enfant évolue et qu'il aura la charge de protéger demain. Apprentissage de la topographie, de l'histoire, de la culture, du quartier, du village, de la ville, par lequel ils peuvent aussi se les approprier. Donc ce sont des temps très importants à différents égards et différents niveaux d'enjeux. Et puis c'est le temps et des espaces de partage, d'espaces communs, d'expériences communes, où va se construire aussi des formes de sociabilité avec l'autre. Enfin, enjeux environnementaux et citoyens, parce que l'espace public et naturel, il est à tous, et donc aussi aux enfants, et le droit des enfants de s'y retrouver, de s'y déplacer, doit être pensé et défendu au même titre que les autres usages de la voie publique. Et prendre soin du dehors pour accueillir les enfants et les familles, c'est aussi prendre soin du dehors lui-même pour le rendre accueillant et sain. Et puis un dehors accueillant aux enfants, il l'est aussi d'une certaine manière pour tout le monde. Ça ouvre un espace d'inclusivité, nous avions appelé ça l'inclusivité du dehors, qui commence au coin de la rue et dans les espaces publics. Il est favorable à tout le monde. Alors au fil de ce rapport, nous avons documenté successivement un certain nombre de freins, de risques et d'ouverture, la sédentarité des enfants au risque de leur santé et de leur équilibre, les impacts des inégalités sociales, genrées, territoriales sur l'accès au dehors, les dangers du dehors réel, redouté, la question majeure des pollutions atmosphériques mais aussi sonores, sur lesquelles on a vraiment fait un focus parce que c'est sous-estimé, cette question des pollutions sonores, alors qu'elles sont d'un très fort enjeu sur la santé et les apprentissages, et particulièrement des enfants qui sont en plein développement. Et puis c'est sur cet ensemble de bases de bilan que nous avons proposé des chemins d'une éducation hors les murs qui se fait déjà dans bien des villes et bien des quartiers et à travers également l'aménagement réellement urbain de villes pensées alors à hauteur ou à portée d'enfants. J'ai beaucoup apprécié cette idée. pour ouvrir la ville et la nature aux enfants. Et donc, sur la base de ces constats, 11 propositions ont été formulées d'accélération, de mise en œuvre plus ambitieuse, mais autour toutes du renforcement d'un principe qui a guidé un peu le rapport, qui est vraiment cette idée d'une inclusivité du dehors. Reconnaître le droit des enfants à être dehors de façon saine et reconnaître que la présence des enfants dans leur singularité, leur vulnérabilité, est favorable à l'occupation de l'espace par tout le monde dans sa singularité et dans sa vulnérabilité. Alors, l'enfant d'intérieur, je vais aller vite sur ce point, puisqu'en plus on en a parlé un petit peu avant, mais ce sont ces enfants qui effectivement sortent moins souvent, sur des durées et des distances de plus en plus courtes, nettement plus courtes vraiment, qui se déplacent de moins en moins à pied et en vélo. Et la France est particulièrement mal classée sur la question de l'activité physique des enfants et des adolescents. Alors les raisons sont plurielles, on les verra, le dehors fait moins envie. La question de l'absence de prise pour des activités au dehors dans un certain nombre de quartiers. Un environnement qui peut être immédiat, qui peut être dégradé, pollué. Des abords qui peuvent être considérés ou représenter des dangers, avec notamment les dangers de la circulation routière, mais pas seulement. Et puis aussi des loisirs, des activités d'intérieur concurrentes, alors évidemment les écrans, mais aussi tout le reste. On peut aujourd'hui pratiquement tout faire et même socialiser depuis chez soi. Donc la question de la concurrence, de l'intérêt, de l'attrait de l'intérieur est vraiment à prendre en considération pour rendre appétant le dehors, effectivement, comme il a été dit tout à l'heure. Et puis des parents qui sortent eux-mêmes moins, qui ont moins le temps de ressortir avec leurs enfants et qui ont moins aussi l'envie de le faire ou de laisser sortir pour différentes raisons, là encore. Y compris en pensant protéger les enfants des dangers potentiels du dehors qui seraient plus importants que ceux du dedans. Et c'est à discuter. Et puis il y a aussi des enjeux de réputation quand laisser ses enfants dehors peut être mal perçu. C'est une dimension d'acceptabilité, de voir des enfants occuper l'espace public et être dehors. Donc les conséquences sur la santé de ce repli sont de plus en plus connues, et donc je vais passer très vite, mais tout est dans le rapport, vraiment sur ces diagnostics, et sur les effets de la sédentarité, risque de surpoids, d'obésité cardiovasculaire, de dépression, d'asthme, qualité du sommeil et des apprentissages, etc. Tandis qu'au contraire, et ça aussi, ça commence à être mieux documenté. Sortir et sortir dans la nature, qui sont deux problématiques rattachées, mais un petit peu différentes, fait du bien, et fait du bien aussi à la santé mentale et à la relation, y compris la relation parentale et la relation aux tiers et aux autres. Voilà. Alors, le premier enjeu à dépasser, c'est que l'accès au dehors est inégal et à différents niveaux. Des inégalités sociales, sexuées, résidentielles, qui tiennent un rôle crucial dans la limitation de l'accès aux espaces publics, à la nature, aux activités extérieures. Je vais commencer par la question du genre, parce qu'elle traverse un petit peu les autres problématiques. L'usage genré du dehors qui encadre les activités et la fréquentation des espaces publics, avec des équipements sportifs d'accès libre qui sont occupés à plus de 90% par les hommes, ce qui flèche aussi les budgets de ces activités sur finalement des pratiques sportives qui reviennent de facto plutôt aux garçons, sachant, juste une parenthèse, que certains équipements, plutôt les équipements payants, et en particulier la piscine et la patinoire, eux sont pratiqués à égalité, 50-50, par les garçons et les filles. L'accès aux espaces publics est aussi, on le sait, beaucoup plus encadré pour les filles que pour les garçons à partir de la puberté. Les filles sont considérées plus responsables pour les dangers du dehors jusqu'à la puberté. Et on les considère plus capables de se protéger, d'avoir d'être plus sages dans leur usage du dehors jusqu'à 12-13 ans. Puis ensuite, les parents laissent moins sortir les filles, beaucoup plus les garçons. Puis je reviendrai sur d'autres aspects de ce rapport genré aux espaces publics, et notamment la question du harcèlement de rue. L'usage de l'extérieur des enfants est aussi lié aux inégalités, évidemment, de revenus des parents, mais aussi de configuration familiale et de pratique de l'extérieur et des activités sportives des parents. Pour aller vite, Et pour commencer par ça, la participation est plus faible aux activités sportives des jeunes les plus âgés. Donc les plus jeunes font plus d'activités et d'exercices que les plus âgés, les familles populaires et les filles, en gros. Et puis, les campagnes de prévention et de promotion des activités physiques touchent davantage en fait, les populations les plus aisées. Mais il est intéressant de noter que les sociabilités d'intérieur, le fait d'inviter les amis, est plus caractéristique des enfants qui vivent dans les familles qui disposent des conditions de logement les plus confortables, qui donc restent plus, finalement, à la maison. Alors qu'on constate une présence plus précoce et plus visible des enfants des classes populaires dans les espaces publics et aussi un meilleur ancrage dans le quartier immédiat, tandis que les enfants les plus aisés vont plus loin quand ils sortent. Un autre facteur, c'est la question de la disponibilité des parents à sortir dehors avec leurs enfants. Et là, ça renvoie aussi aux problématiques d'accès à l'emploi et de proximité de l'emploi et du domicile. Et puis aux questions de composition familiale et d'être seul à la maison ou pas. C'est aussi le facteur de la pratique sportive des parents. Quand les parents sortent et font du sport, les enfants en font plus aussi. Et puis la présence entraînante des frères et sœurs. Dans les fratries, on fait plus de sport que pour les enfants uniques, qui dès 2 ans passent plus de temps que les autres devant les écrans aussi. Bien sûr, donc, le coût représente un frein important pour l'accès, non pas seulement au dehors, mais aux activités de loisirs encadrées et collectives et aux périscolaires. Une famille sur 5 renonce à inscrire son enfant au centre de loisirs, aux activités extrascolaires pour des raisons financières, après les études. Et puis, les activités, les équipements d'extérieur sont aussi inégalement répartis sur le territoire, entre le rural et l'urbain, et en fonction des régions, mais aussi en fonction de la disponibilité de transport pour aller jusqu'au lieu des activités. Ce qui fait que les enfants qui vivent hors des unités urbaines, au milieu rural, ont 20 à 40% de moins de chances de pratiquer une activité hors du temps scolaire en semaine, ce qui est vraiment énorme. Alors, juste un zoom sur les activités de loisirs des enfants en situation de handicap. Alors là, c'est vraiment extrêmement faible. Les enfants bénéficiant de l'allocation d'éducation enfants handicapés, la AEEH représente seulement 0,28% de la fréquentation totale des accueils de loisirs. Et c'est 7 fois moins que ce qui pourrait être compte tenu du nombre d'enfants qu'ils représentent. 2 familles sur 3 n'ont jamais eu accès à un accueil de loisirs handicap, alors que 63% le souhaiteraient. Et 1 famille sur 2 n'en a jamais fait la demande, soit par manque d'informations, soit convaincue qu'ils n'y ont pas droit. J'insiste pas plus, mais voilà, c'est aussi des aspects qui sont dans le rapport de façon plus détaillée. Et plus largement, mais je ne vais pas entrer dans cette question-là, les quartiers, le cumul des inégalités résidentielles et environnementales touche essentiellement les populations les plus défavorisées, d'une part. On a toute une partie dans le rapport sur le cas des situations de mal-logement, les questions d'enfants qui sont en hôtel social, la question aussi de la qualité de l'environnement et de la qualité dégradée de l'environnement des aires des gens du voyage et de la situation particulière carrément là des 5000 enfants qui habitent en bidonville. Pour vraiment indiquer que la question des conditions de logement est extrêmement évidemment aiguë pour certaines populations pour lesquelles là l'accès au dehors est particulièrement difficile. Alors, autre enjeu de ne pas sortir ou laisser sortir, la question de l'évitement du risque, à commencer par, puisque c'est la première cause qui est évoquée par les parents, l'accidentologie routière, hein, le risque d'accident de la route. Je ne vais pas entrer non plus dans le détail, juste dire que En fait, l'accidentologie des mineurs et des enfants d'accidents de la route en tant que piétons, elle est plus faible que pour n'importe quelle autre catégorie de la population. La plus forte étant, en fait, à partir des 18-24, mais là, c'est associé au fait de pratiquer le deux-roues. Avant, les enfants et les adolescents sont moins accidentés que les autres. Et elle est plus basse pour les plus jeunes. Elle est un peu plus haute pour les 14-17 ans, mais en baisse continue depuis 10 ans. Et pour les moins de 13 ans, elle est basse. Donc, le risque des 0,17 reste le plus faible. Et juste signaler que les dispositifs de type ville 30, donc la réduction de la vitesse à 30 km/h en ville, montrent des bons résultats, puisque les accidents ont baissé très fortement là où ce type de mesure est pratiqué. Et l'accidentologie piétonne particulièrement, c'est de 43% sur certains sites expérimentaux. Donc c'est extrêmement patent. Et aussi du côté des cyclistes, puisqu'on a toujours peur de l'accident de vélo pour plein de raisons, le nombre d'accidents continue de baisser, continuellement et fortement, et ce malgré une très forte augmentation dont on peut se réjouir de l'usage du vélo, pour mes chiffres, depuis 2019. Voilà. Autre risque et évitement du risque en évitant de sortir, la question des atteintes aux personnes. Quand on interroge les parents, donc les trois motifs principaux qui arrivent, c'est le manque de ressources ou un environnement de proximité dégradé et de mauvaise qualité, hein, les carences, avec le manque d'équipement, le manque d'animation, l'environnement dégradé, la mauvaise image du quartier ou du village, qui fait qu'on n'a pas envie de sortir et laisser sortir. Mais en deux, on a donc les dangers de la circulation, on vient de le voir, et puis en trois, la délinquance, et en fait, ça soulève tout ce volet de la question des atteintes aux personnes, où les parents se disent particulièrement... Alors, il y a la question des vols qu'il faut mettre de côté, notamment les vols de vélo, qui pèsent aussi sur l'usage du vélo, notamment sur les trajets école-domicile, qui sont pourtant un levier vraiment de réappropriation de l'environnement, de son environnement urbain et de quartier. Mais les parents sont surtout préoccupés dans cette catégorie-là de crainte par le risque de la mauvaise rencontre, le risque de la mauvaise influence, le risque de la rencontre avec l'inconnu malveillant. Il y a vraiment toute une constellation comme ça qui touche à l'autrui malfaisant d'une façon ou d'une autre pour l'enfant, qui doit vraiment poser question, hein, c'est interrogé. Et qui sont vraiment des risques qui conditionnent fortement les pratiques d'encadrement parental. Sur les enfants et particulièrement sur les filles et les jeunes filles. Parallèlement, le harcèlement de rue, les atteintes sexistes et sexuelles touchent massivement et là sur les jeunes, et y compris dans les interviews et les sondages qui les interrogent directement eux. Un des thèmes qui apparaît aussi, c'est la question de la prostitution des mineurs. Alors, la prostitution des mineurs, c'est un phénomène qui reste très rare, même s'il progresse, mais qui inquiète beaucoup. Et par ailleurs, c'est un phénomène qui démarre le plus souvent sur les réseaux sociaux et dans la chambre, en fait. Mais il y a encore un autre domaine qui réellement nuit à l'expérience du dehors et sur lequel il faut agir, c'est la question des pollutions. Vous avez dans le rapport, et donc je ne vais pas insister, vraiment beaucoup de diagnostics et de chiffres sur les effets, les taux de pollution, à quel point on est exposé massivement aux pollutions, à quel point c'est plus grave pour les enfants et les femmes enceintes. Et c'est vraiment un enjeu majeur sur lequel on a été amené du coup à formuler vraiment des recommandations. 3 enfants sur 4 respirent un air pollué en France. C'est un véritable problème de santé publique. Les habitants des villes denses sont les plus exposés. Retenir ce chiffre que 40 000 décès prématurés sont attribuables chaque année à la pollution de l'air et que la pollution de l'air, elle représente 8% de la mortalité globale annuelle. Alors, il faut aussi parler, particulièrement pour les femmes enceintes, d'autres polluants qui sont très dangereux pour elles, qui sont les pesticides et puis maintenant les PFAS, dont on parle de plus en plus. avec de grandes disparités territoriales en fonction des polluants, mais voilà, les grandes villes, les régions très industrialisées sont plus touchées. Du coup, les villes denses pauvres et les villes denses les plus riches sont les plus touchées. Mais parmi les villes les plus touchées, ce sont les habitants les plus pauvres qui sont les plus atteints, et y compris parce que et les enfants, y compris parce qu'ils naissent plus fragiles aussi. Et on le voit très bien sur les taux d'hospitalisation en urgence en bronchiolite et asthme dans ces villes-là. Juste signaler que les métropoles ont un indice d'exposition multiple aux différents types de principaux de pollution, 4 fois supérieur à la moyenne nationale. Il y a vraiment une problématique grande ville. Et puis, voilà, comme c'est un constat pas très optimiste, je veux signaler que les dernières études montrent aussi que la pollution de l'air est très forte à l'intérieur des établissements scolaires. Il y a aussi un travail à faire sur l'air intérieur. Mais je ne rentre pas là puisqu'on est sur le dehors, nous. Juste signaler que dans les rues aux écoles et les types de rues comme ça, piétonnisées, aux abords des établissements scolaires, les concentrations en dioxyde d'azote, qui est un des principaux polluants, baissent jusqu'à 30% dans ces rues. Et puis juste un zoom sur la question des pollutions sonores. Je l'ai dit, c'est très sous-estimé et pourtant les impacts sont réels et graves sur les enfants et généralisés. La France est massivement exposée à des taux de décibels de bruit qui sont supérieurs aux normes considérées acceptables européennes. Et ce qui représente 13 mois de vie en bonne santé du fait du bruit lié au transport quand même. L'exposition au bruit des avions, donc sur les circulations d'avions et sur les grands axes de circulation routière sont les endroits qui dégradent le plus les performances cognitives des enfants dans les établissements scolaires sont dans ces zones et entraînent des retards d'apprentissage, voilà, avec des diminutions de capacité de lecture et de mémoire, une baisse de l'attention, des troubles du sommeil. Bien sûr, des diagnostics sont possibles, que ce soit à la création d'une école ou d'une classe ou en cours de... Ou pour rénover les établissements et qui ensuite permettent des aménagements qui permettent de faire redescendre drastiquement le niveau sonore dans les classes. Alors, après ces diagnostics pas très encourageants, en fait, les chemins du dehors, c'est possible, beaucoup de choses se font. Il y a une prise de conscience qui est réelle et beaucoup d'actions dans les différents niveaux de territoire, dans les villes, dans les quartiers, dont je ne vais pas parler parce que je crois que c'est aussi l'objet de cet après-midi. Mais avant d'entrer quand même dans le fourmillement de tout ce qui existe et doit être soutenu et mieux connu, pour encourager cette prise de conscience et ce changement de paradigme à l'égard de ce que c'est que le dehors, juste signaler quand même certains leviers plus discrets, mais qui sont importants, dont on s'est aperçu que c'était important et qu'on pousse dans le rapport. D'abord, la question de ce qu'on appelle les espaces seuils, c'est-à-dire penser le passage du dedans au dehors, dont on voit qu'il est compliqué, laisser sortir, sortir, pas simple, il n'y a pas une appétence, en tout cas elle est plus faible. Donc porter attention aux espaces seuils et à leurs hôtes, c'est-à-dire faire vivre tout ce qui peut faire vivre la frontière, et donc la passerelle, entre le dedans et le dehors. Alors, on peut parler des gardiens d'immeubles à l'époque, on peut parler d'un certain nombre, les commerçants de quartier, et puis l'ensemble des adultes, finalement, du quartier qui peuvent être identifiés comme des ressources dans l'espace public, ressources familières, qui facilitent le sentiment de sécurité quand on sort en tant qu'enfant ou en famille, et qui permettent qu'un enfant puisse y circuler en famille, mais aussi seul, sous la surveillance informelle des autres adultes. Voilà, cette question de la communauté locale, sociale et culturelle, elle est importante à penser quand on pense l'accès au dehors élargi. Et évidemment, les acteurs associatifs qui sont investis dans les structures locales. Alors, très rapidement, on peut parler à la fois des parents d'élèves, des associations de prévention, de l'éducation populaire, des centres sociaux, des LAEP, etc., forment aussi tout un maillage d'acteurs de proximité qui connaissent le quartier, qui connaissent les habitants et qui portent des expérimentations qui peuvent répondre aux besoins des habitants de ce territoire parce qu'ils les connaissent. Donc la question de la confiance, de la proximité et de l'interconnaissance, elle est importante. Bonjour. Voilà. Je crois que voilà, il y a une intervention Café Zoïde cet après-midi. On est tout à fait dans ces choses-là. Les cafés des enfants, les médiations nomades, les espaces de vie sociale sont autant d'illustrations comme ça, de repères familiers et de proximité qui facilitent l'aller dehors. Ouais. Autre enjeu, la question, je l'ai dit tout à l'heure, des développements domicile-école, qui représente un grand enjeu dans la lutte contre la sédentarisation, mais aussi un enjeu d'appropriation et de réappropriation du quartier par les pieds, pour les familles et les enfants, avec trois axes qu'on a identifiés qui sont améliorer l'accessibilité des écoles, en sécurisant les itinéraires, en aménageant les abords des écoles, avec les jeunes et les enfants, bien sûr, pour donner envie de venir à pied et en vélo. Faciliter aussi, de ce point de vue, les déplacements alternatifs et collectifs marchent très bien quand ils sont organisés, soit spontanément par les communautés, les voisins et les parents, soit par des associations ou par l'école. Donc, tout ce qui est pédibus, c'est les cohortes où les enfants vont ensemble à pied à l'école, les vélobus, le copiétonnage, voilà, ces formes-là de déplacements collectifs qui peuvent être mis en place, agrégés à la question des déplacements à l'école, puisque de toute façon, il y a des déplacements tous les jours. Et puis, communiquer sur les enjeux des mobilités actives, à la fois du côté des effets sur la santé, sur l'environnement. Alors, il y a une difficulté sur l'ensemble des appuis associatifs à toutes ces démarches, qui est aussi pointée dans le rapport, et qui est vraiment la question des financements. C'est-à-dire que ce sont des démarches et un état d'esprit qui repose sur une forme de pérennité, de proximité et d'interconnaissance qui suppose de durée, qui suppose des liens et des inscriptions pérennes dans des projets. Et donc les formes de financement au projet ou à court terme ne favorisent pas les démarches d'expérimentation, vous avez parlé, ni la construction dans la durée d'un certain nombre d'actions avec les parents, les enfants et les municipalités. Or, le facteur de confiance est essentiel pour que ça marche, ce type de dispositif, et pour que ça dure. Et puis voilà, l'autre niveau d'intervention, c'est vraiment l'aménagement de la ville. On a commencé à en parler un petit peu sur les abords des lycées, mais c'est de mettre... pour mettre les enfants dehors, c'est toute la ville qui doit s'aménager en fonction d'eux, avec eux, pour qu'elle soit hospitalière, à hauteur ou à portée d'enfants, aujourd'hui, mais aussi demain, dans un contexte où la transition écologique est vraiment à prendre en compte. Je vais y venir très vite. Faut que j'accélère, hein, d'accord. Bon. D'accord. Oui, bon, de toute façon, il y aura des questions. Juste signaler que, voilà, on renouvelle le bâti d'un pour cent par an. Ça veut dire qu'en 2050, 80% du bâti sera celui d'aujourd'hui, sera toujours le même. Et il n'est absolument pas prêt aux enjeux du réchauffement climatique. Donc, il y a vraiment un gros enjeu et un gros chantier d'aménagement et de rénovation du bâti existant, tout en continuant les démarches d'atténuation de notre empreinte. Hein, ce n'est pas la question. Mais... Et donc, ça suppose, comme vous le voyez, les îlots de fraîcheur aussi, le fait d'ombrer la ville et de permettre que le frais, l'eau et la verdure, la végétation aient leur place dans la ville et fassent aussi retomber la température lors des canicules, par exemple. Il y a aussi un enjeu vraiment de réhabilitation des logements qui deviennent beaucoup trop chauds pour les habitants dans plus en plus d'endroits. Ce qui m'amène simplement, donc je ne vais pas rentrer dans les propositions, mais vous les présentez très vite, cette série de 10 propositions, tout autour de la 11e, l'inclusivité du dehors, pour un accès inclusif et inconditionnel, qui montre qu'il faut commencer par mettre en avant et rappeler la spécificité des enfants qui ont des besoins propres en fonction de leur âge, et qui donc la ville doit s'adapter à cette spécificité, à ces besoins différents. Pour mieux faire la ville des enfants, il faut aussi mieux connaître leur situation face à cette problématique, donc traiter la question des disparités d'équipement et d'accès, des risques pour la santé, les la réalité des atteintes aux personnes, du harcèlement de rue, de la pollution, etc. Donc, continuer à mener, à développer et à prendre en compte les études existantes sur ces sujets-là. Mieux accueillir les enfants dehors, c'est accepter que c'est bon qu'ils y soient. Il y a vraiment un changement de paradigme, un changement de regard à pousser, qui a déjà commencé, mais qu'il faut vraiment continuer à pousser et à opérer au niveau institutionnel, qui pour souvent des raisons de sécurité qui sont invoquées, mais aussi de responsabilité juridique, a tendance à restreindre plutôt qu'à favoriser l'acceptabilité et la présence des enfants et singulièrement des adolescents dans l'espace public. Je n'ai pas du tout parlé des jeux à risque, mais c'est un sujet. Hein, permettre aussi des jeux moins finalisés, des jeux où on peut s'expérimenter à une certaine prise de risque, c'est possible et c'est plutôt très bon pour les enfants. Accueillir les enfants dans la rue, ça suppose aussi de partager un espace qui soit occupé, vivant, solidaire, bienveillant à leur égard. C'est une continuité de ce qu'on disait. Et de nourrir donc la vie locale d'une vie culturelle, d'une vie habitée d'adultes au coin de la rue. Et pour s'approprier et faire vivre le quartier, il faut aussi sécuriser le logement, en prendre soin, proposer des environnements soignés et un environnement qui, dedans et dehors, donne envie de sortir. Et donc la question de la précarité du logement et des logements et environnements dégradés est importante à traiter. C'est aussi lutter contre l'envie de rester chez soi, hein, réduire l'enclosure, donc contre les écrans, donner envie de faire autre chose avec des gens et ailleurs. Et septième recommandation, ce qui est essentiel, c'est aussi l'aménagement urbain. Et là, il faut des moyens, mais les projets urbains d'aménagement pour faire concrètement dans le bâti de la place aux enfants, aux familles et à la nature. Question qui embarque celle de la pollution, notamment routière, mais aussi sonore dans les espaces urbains et bien sûr aussi ruraux, qui ont aussi des problématiques de pollution, notamment agricole, et dans les drômes. La question est enfin celle du partage et de la coprésence dans l'espace entre les garçons et les filles, la question des usages genrés dans les espaces d'activité et dans la simple déambulation. Et puis sortir de l'espace public, c'est l'expérience de la nature et de l'ailleurs qui est fondamentale pour grandir et qui suppose des espaces-temps de dépaysement, des vacances, des colos, des séjours scolaires, hors de sa famille et du milieu qu'on connaît et hors de l'environnement qu'on connaît. La notion du dépaysement est à pousser. Le Collège des enfants avait une recommandation forte qui était un voyage scolaire par an et par enfant. Il n'y est pas, mais je vous la livre. Et puis, finalement, ces recommandations gravitent autour d'un principe qui est celui de l'inclusivité du dehors, partage et droit de tous à l'espace public comme espace non finalisé, ni axe de circulation, ni axe privatisé, ou dévolu à une seule fonction, mais libre des... voilà, de ce que tout le monde veut et peut y faire, y compris les enfants dans leur singularité, et sachant que ce qui est à hauteur d'enfant bénéficie à tous, la lenteur, le repos, la bienveillance collective, l'acceptation de la diversité des personnes, des rythmes et des besoins. Je vous remercie. Et pardon, je suis beaucoup trop longue.
Merci. Merci Frédéric, c'était un challenge compliqué de rendre compte de la diversité des apports de ce rapport qui est accessible sur Internet, hein, sur le site du HCFEA. Mais merci d'avoir brossé avec véritablement des données chiffrées, vérifié des éléments de réflexion sur l'évocation d'un changement de paradigme.